coq chanter le jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons voir les efforts de fixation des dunes à Cœur Samba Laobé, Teben 1 égale Damel Amat, trois villages de la commune rurale du Tiep, situés dans la région de Louga au nord-ouest du pays. Cette question de fixation des dunes, il faut d'abord connaître la région. L'économie est essentiellement agricole alors qu'on accumule les conditions défavorables. D'abord, il y a un bradage des terres aux alentours des grandes villes, Djourbel, Thiès ou Kaolack, résultat des milliers d'hectares fertiles partis pour le logement et dans la spéculation foncière. Ensuite, une faible pluviométrie mal répartie dans le temps et dans l'espace. Il y a des problèmes avec les nappes phréatiques. Les terres sont pauvres et menacées d'ensablement. Pourtant, il est clair pour tous que si l'on veut atteindre l'objectif de sécurité alimentaire, il faut augmenter la production agricole. Pour l'heure, il est tout simplement question de limiter les dégâts. C'est ce que nous allons voir à notre première escale dans le village de Teben 1 avec Seydi Mansour Omar, technicien des eaux et forêts, animateur de l'ONG internationale SOS Sahel.
On est dans le village de Teben 1. Teben 1, c'est le village natal du maire de la commune de Tiep.
D'accord. Alors, vous nous avez amené dans une plantation. Mais avant de parler de ce site maraîcher, dans cette région, la saison des pluies dure de quel mois à quel mois?
Bon, dans cette région-là, la saison des pluies dure de juillet en septembre. Mm-hmm. Oui. Les précipitations là ne sont pas nombreuses, quoi, malheureusement. De plus en plus, on a des pénuries d'eau.
Et qu'est-ce qu'on cultive ici?
Ici, on cultive de l'oignon. Mm-hmm. On est dans une parcelle maraîchère où on cultive de l'oignon.
Si j'ai bien compris, en saison pluvieuse, ce que vous appelez les cultures saisonnières, mm-hmm. là, on fait essentiellement des céréales. Et quand la pluie s'arrête, on fait du maraîchage.
Oui, en saison pluvieuse, on fait l'arachide, le mil, l'haricot, l'oseille.
Ce que vous appelez haricot, c'est le niébé.
C'est le niébé, oui, c'est le niébé que l'on culture pendant l'hivernage. Ce sont les cultures saisonnières.
Et l'oseille, c'est pour faire du bissap et pour faire c'est un condiment aussi pour la sauce.
Oui, l'oseille, un condiment pour la sauce et aussi pour les jus et les sirops de bissap. Mm-hmm. Oui, oui.
Alors, si j'ai bien compris, quand je regarde autour de moi, il y a plusieurs problèmes ici. D'abord, il y a les dunes. Le sol est sablonneux, il n'est pas forcément riche. Et vous dites que la mer n'est pas loin, l'eau de mer menace. Les dunes se déplacent. Et forcément, il y a des problèmes d'eau.
Oui, ce sont ces problèmes que nous rencontrons parce qu'on est juste à moins de 8 km de la mer. Et donc, même vous le constatez, il y a beaucoup de vent. Donc c'est le vent là qui est des fois un phénomène négatif pour les plantations parce que c'est ce qui crée et favorise les dunes. Les dunes aussi menacent toujours les cuvettes maraîchères. L'autre problème c'est aussi quand il y a l'ensablement, la partie arable du sol disparaît et donc les sols deviennent de plus en plus pauvres. Et le problème de l'eau aussi, des fois, c'est le risque de la salinisation. Parce que dans cette zone-là, la nappe n'est pas trop longue, environ 3 à 4 mètres. Et maintenant, le problème, c'est la salinisation et aussi le fer que les gens commencent à voir dans certaines parcelles, ce qui même fait décourager les gens de ne pas faire du goutte à goutte et de faire des bassins pour amoindrir ces risques-là.
Donc l'un de vous va se laisser la route à l'autre.
Alors, c'est la route.
Mais notre problème, c'est le déboisement avec toutes ses conséquences négatives. Il faut du bois de chauffe et du bois d'œuvre pour les familles. Et à cela s'ajoute le pâturage aérien, c'est-à-dire les éleveurs qui montent dans les arbres pour couper les branches. Or, un sol nu offre moins de résistance aux érosions de toutes sortes. L'une des solutions, c'est le bois de village, dont nous allons voir un exemple dans le village de Cœur Samba Laobé.
On est dans le village de Cœur Samba Laobé, dans la commune de Tchepo, département de Kébémer, et précisément dans la région de Louga.
D'accord. Alors là, c'est tout est ensablé. Ici, il n'y a que du sable partout.
Oui, oui, c'est les effets du changement climatique. Vous constatez même qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et c'est la raison pour laquelle les gens aussi sont confrontés surtout à un problème de bois de chauffe. Et ils ont toujours tendance à couper le bois pour faire cuisiner. Et donc, il est venu l'idée avec la population, la commune et SESL d'installer un bois de village pour au moins lutter contre la désertification.
Qu'est-ce que vous appelez bois du village? Alors, nous sommes devant le jardin, là.
Oui, oui, ça, c'est ça qu'on appelle bois de village, parce que c'est une plantation faite par la population villageoise, parce que le village est à côté. Donc, la parcelle a été octroyée par le chef de village et le reboisement est fait par l'ensemble des villageois, de même que l'entretien de la plantation et aussi le bois de village appartient au village et la gestion aussi incombe aussi au village.
La clôture, là, c'est fait avec quelle essence végétale?
Bon, la clôture est faite par l'euphorbia, Euphorbia balsamifera, et SOSL les avait appuyés en filet de protection, surtout au niveau des jeunes plantations pour éviter la divagation des bétails.
La divagation des bétails, c'est-à-dire que les jeunes poussent, là, les animaux rentrent manger ça?
Oui, les jeunes poussent, les animaux rentrent manger. Parce que c'est quand on avait planté la parcelle-là, et 3 mois après, quand on venait faire le suivi du taux de reprise, on a constaté beaucoup de mortalité due par la divagation des bétails. C'est pour cela qu'on utilise les filets pour amoindrir les dégâts.
Donc, vous avez d'abord mis les forbias, puis les filets?
On a mis le forbia, puis les filets.
D'accord. Mais maintenant, à l'intérieur, là, qu'est-ce que vous avez? C'est une espèce d'eucalyptus, ça reste?
À l'intérieur, c'est l'eucalyptus camosulilensis qu'on a planté ici.
Et pourquoi l'eucalyptus?
Parce que ça s'adapte très bien à la zone et aussi ça permet aussi de fixer le sol, surtout le sol qui se déplace, les racines sont traçantes. Et aussi c'est une espèce prisée par d'abord les populations par le bois de chauffe, par la production des étais pour les maçons et la production de perches pour la construction des cases.
Qu'est-ce que vous appelez racines traçantes?
Racines traçantes, ce sont des racines qui vont en largeur. Au lieu d'aller en profondeur, comme la racine profonde, les racines traçantes vont sur la partie souterraine. Et maintenant, ça freine le développement du sable qui se déplace. Parce que vous voyez ici, dans la zone, là, le sable est tellement fin. Quand il y a un peu de vent, le sable se déplace. Et donc, si on a une espèce qui a des racines traçantes, ça permet au sable de diminuer le déplacement des sables pour éviter l'ensablement des parcelles et des cuvettes.
Moi, je vois qu'il y a un dépôt aussi des feux, là, et puis de ceux qu'on a coupés. Et tout, il y a d'autres essences herbeuses qui ont poussé.
Oui, parce que si la parcelle est protégée, donc il y a un avantage, c'est que les animaux n'entrent pas. Et donc, dans une certaine période, il y a les feuilles qui tombent, les feuilles de l'eucalyptus qui tombent et se transforment en matière organique. Et aussi l'herbe, pendant la saison des pluies, puisque les animaux n'entrent pas, l'herbe est protégée. Et donc, à une certaine période où il n'y a plus d'herbe, parce que si vous voyez la différence entre les parcelles où on cultive les cultures hivernales, là, dans le bois de village, il y a beaucoup plus d'herbe qu'ici. Et aussi, la population peut utiliser cette herbe-là pour les animaux.
Ah, c'est-à-dire que ça forme une espèce d'humus. Donc, en saison de pluie, l'herbe pousse comme elle veut et puis comme c'est protégé.
Oui, c'est comme une forme d'humus. Et puisque c'est protégé après la saison des pluies, il y a beaucoup d'herbes. Et aussi, ça permet à la population de conserver, de l'utiliser comme une réserve. quand ils n'ont plus d'herbe au niveau des parcelles non protégées, ils peuvent venir ici prendre l'herbe pour les amener pour leurs animaux.
Pour en revenir à l'eucalyptus, on m'a dit que c'est une essence qui pousse vite.
Oui, l'eucalyptus est une essence qui pousse vite. Ça pousse très vite parce que l'âge d'exploitabilité, c'est environ 8 ans. Si les conditions sont très favorables, 8 ans, vous pouvez exploiter.
Ah, au bout de 8 ans, on a du bois, on a du bois d'été, on a du bois de chauffe et tout.
Oui, au bout de 8 ans, si la parcelle est bien entretenue et que la nappe n'est pas profonde, au bout de 8 ans, on peut commencer à exploiter.
Mais une fois qu'on a planté, il faut entretenir. Alors comment ils font?
Mais il faut entretenir bon, au début de la plantation parce que ici, des fois, on a 2-3 pluies utiles. Donc après l'hivernage, ils se sont organisés en petits groupes d'arrosage. Chaque jour, il y a un groupe qui est en charge de l'arrosage. Chaque jour, il y a un groupe qui est en charge de l'arrosage jusqu'à 1 à 2 ans. Et maintenant, à partir de ce moment-là, il cesse d'arroser.
Qu'est-ce que vous appelez une pluie utile?
Une pluie utile, c'est une pluie quand il y a beaucoup d'eau, par exemple une cinquantaine de millimètres, là où on peut faire les semis. Oui. C'est différent des traces, quoi, parce que des fois ici on a une pluie, mais l'eau n'est pas assez suffisante pour pouvoir semer.
Donc une pluie utile, c'est beaucoup d'eau, ça dure et ça pénètre en profondeur.
Ça pénètre en profondeur, effectivement, oui.
À l'inverse d'une pluie qui peut avoir beaucoup d'eau, mais avec l'écoulement, si c'est violent, ça s'en va.
Oui, ça s'en va, surtout les traces. Et ici, c'est ce qu'on remarque dans la zone. Bon, quand il y a pluie, la majeure partie, ce sont seulement des traces. 5, 10, 15, 20 mm de pluie.
Ce que vous appelez des traces?
Oui, oui.
Bon. La température baisse, c'est mouillé, mais ce n'est pas ça qui va servir pour l'agriculture.
C'est pas ça qui va servir pour l'agriculture.
Bon, mais maintenant, comment le village se partage ce bois-là?
Bon, quand ils arrivent à l'âge d'exploitabilité, maintenant ça revient au comité villageois d'abord d'avoir une autorisation de coupe au service des eaux et forêts et aussi de faire une planification sur la coupe, de ne pas couper à la fois tous les arbres. Et maintenant, ce sera à la décision du village de dire comment est-ce qu'ils vont faire, soit ils vendent ça à l'intérieur du village pour mettre l'argent dans leur caisse ou bien aussi ils se partagent le bois.
Vous voulez me dire que même si j'ai planté, même si j'ai entretenu pendant des années, pour couper, il faut que j'ai une autorisation.
Il faut une autorisation au niveau du service des eaux et forêts.
C'est sévère, ça.
Il faut une autorisation. Parce que c'est eux aussi qui gèrent l'environnement. Mm-hmm. Et donc, on ne peut pas venir couper comme ça, quoi.
Alors, Michel Youn, je vais voir. Et le chef du village a donné le terrain. Mm-hmm. SOS Sahel a donné les plans, les jeunes plans. Mm-hmm. Et vous, pour l'encadrement. Et puis, le conseil technique.
Oui, oui. Bon, le chef de village a donné le terrain, comme vous le dites. SOSL a donné les plans, les filets de protection, l'encadrement technique et la population, le reboisement.
La main d'œuvre.
La main d'œuvre, oui, et l'entretien des populations. Et la commune, puisque c'est une compétence transférée, l'environnement, donc SOSL a fait ça à la place de la commune, parce que c'est la commune qui devait faire ça. Mm-hmm. Et donc, puisque les communes n'ont pas les moyens pour faire tout, SOSL les appuie et ça devait être le travail de la commune.
Mais vous travaillez quand même en partenariat avec la commune?
Oui, en partenariat avec la commune, oui.
Parce que quand même, ils sont chez eux et c'est la puissance ici.
Mais on travaille en partenariat parce qu'eux aussi, ils s'y intéressent. Parce qu'ils savent que c'est eux qui devaient faire ça. Mm-hmm. Ils n'ont pas les moyens. Donc, si OCSL vient, ils sont accueillis à bras ouverts.
Donc, l'idée, c'est que chaque village ait un bois de village.
Bois de village, oui, pour freiner la désertification et lutter contre les coupes illicites.
D'accord, je vous remercie.
Oui, merci beaucoup.
À présent,
réalisant la fixation des dunes proprement dites avec les différentes techniques. C'est une action longue qui comprend plusieurs phases. Nous allons tenter ici de résumer pour aller au plus précis. Il s'agit dans un premier temps de freiner le mouvement des sables en érigeant des palissades de 1 à 1,50 m de hauteur afin de provoquer à leur niveau une accumulation de sable qui permettra la formation d'une dune artificielle. Ensuite de quoi il faut pérenniser l'action avec des rangées de plantes. Pour voir la mise en œuvre, nous allons dans le village de Galdamel à Mat. Pour avoir une meilleure vision d'ensemble, il faut aller au sommet de la dune.
Ah oui, c'est vrai que de là on voit mieux. Là, on est sur un site où vous avez fait la fixation du dune.
Oui, on est dans le village de Galdamel à Mat. Et on a fait de la fixation de dune sur pour protéger une cuvette qui était menacée.
Ah, cette cuvette-là est doublement menacée parce que de là, on voit que c'est menacé en bas. Et puis de l'autre côté aussi, ça s'agit de descendre.
Bon, de ce côté-là, on voit que maintenant...
C'est stabilisé.
C'est stabilisé. Parce qu'on l'avait reboisé depuis 2010.
Ah, de l'autre côté, là?
Oui, de l'autre côté, oui, depuis 2010. Et maintenant, c'est stabilisé, il n'y a plus de crainte.
Ah, ça veut dire que les arbustes que je vois là, le système racinaire a bloqué la dune.
Oui, le système racinaire a bloqué la dune et aussi on a vu la présence d'herbes qui poussent.
Donc, ce site-là a été menacé. Et c'est avec cet arbuste-là, comment ça s'appelle?
Ça, c'est le Laptadania. Bon, ils se sont régénérés naturellement quand la dune a commencé à stabiliser. On a constaté la présence d'herbes qui viennent de commencer à s'installer ici.
Ah donc, vous avez planté les acacias, ça a bloqué?
Oui, on a planté les eucalyptus.
Oui, les eucalyptus.
Les eucalyptus, et ça a bloqué. Et un autre avantage, l'herbe aussi commence à pousser.
Comme ça a été bloqué, cette herbe la pousse.
Comme ça a été bloqué, cette herbe la pousse. Et aussi, ça permet aussi de freiner le développement, l'ensablement aussi.
Mais il y a un avantage là, c'est-à-dire que en haut, l'eucalyptus là, c'est de brise-vent, comme vous dites. Les racines, ça stabilise. Et en bas, le système herbacé qui se forme va encore plus stabiliser.
Oui, en bas, vous voyez, il y a le système herbacé qui se forme. Ça permet de stabiliser la partie souterraine de la montagne. Et aussi en haut, on a l'eucalyptus qui joue un rôle de brise-vent. Et aussi, on voit que maintenant, la parcelle s'est bien stabilisée.
Ah, moi, je pensais que ces herbes-là, c'était vous qui aviez planté.
Non, on n'a pas planté ces herbes. Les herbes étaient poussées naturellement. Oui, se sont poussées naturellement.
Ah oui, d'accord. Et de l'autre côté, vous aviez commencé là-bas avant de venir ici.
Oui, de l'autre côté, plus loin, c'est la bande de Filao. Et ici, on a fait presque une régénération naturelle. Les espèces qui étaient nées ici naturellement, on les a élevées. Et la dune, la parcelle-là, c'est cette partie-là qui était trop plus menaçante.
Attendez, je vais essayer de voir. La mer, c'est de l'autre côté. Et on a fait la bande du Filao dans les années 50, ça bloquait au niveau de la côte. Mais y a, les problèmes ont subsisté au-delà.
Les problèmes ont subsisté au-delà parce qu'on a vu que pratiquement un kilomètre après la bande, des dunes ont commencé à se former. Parce que la bande de Filao ne peut pas protéger toute la zone. Donc les dunes se sont commencées à s'installer. Et des fois, il y a des vents selon les périodes qui sont qui viennent de l'ouest, c'est-à-dire vers la mer. Des fois, il y a des vents qui viennent du nord, nord-est. Ça aussi favorise la création de dunes. Et c'est pour cela que cette parcelle-là est menacée. Il y a une dune qui s'est formée et la cuvette est menacée. Et donc, on était obligé d'intervenir parce que même si le propriétaire là disait que même là où on est, ça faisait partie de la cuvette.
Mais ah oui, en fait, c'est la dune qui a bougé jusque-là.
La dune qui a bougé jusque-là. Même là où on est, ça faisait partie de la cuvette.
Et on cultivait ici?
On cultivait ici. Et il nous a dit que si on n'intervient pas, il risque de perdre toute sa parcelle. Oui.
Et quand vous êtes arrivé, vous lui avez expliqué, il a compris?
Il a compris et il nous a accueillis à bras ouverts. Et il dit qu'à chaque fois qu'il pensait à comment faire, mais il n'a pas d'idée, il n'a pas d'expérience, il n'a pas la connaissance pour pouvoir faire ça. Et donc quand on est venu, on a sensibilisé et il a été le premier à accepter. Et même on a reboisé pendant la saison chasse, c'est en avril qu'on a reboisé.
C'était urgent quoi.
C'était urgent. On reboisait, on arrosait jusqu'à l'hivernage.
C'est-à-dire qu'on ne plante pas de nouveaux plants, mais ceux qui poussent naturellement, on les aide à pousser.
Oui, ceux qui poussent naturellement, on les aide à pousser. On fait des tailles. Et si l'arbre c'est un peu patient, on met un piquet.
Un tuteur.
On met un tuteur et on l'attache. Et on fait l'entretien. Des fois, on prend un morceau rouge ou bien de la peinture pour signaler aux gens que, attention, danger, il ne faut pas toucher à cet arbuste-là.
Ah, vous voulez dire que s'il y a du pâturage aérien, il y a des gens, quand ils arrivent, ils coupent pour les animaux, mais quand ils voient cette peinture, ils comprennent que c'est vous qui avez laissé ça.
Oui, quand ils voient la peinture, là, ils laissent. Ils ne vont pas couper parce qu'ils disent que là, on l'a fait pour sauvegarder.
Mais là, il a fallu expliquer la signification de cette peinture.
Bon, la peinture, eux-mêmes, ils le savent. Parce qu'on fait la peinture pour leur montrer qu'il y a la main d'homme qui a intervenu. Qui a intervenu, quoi. Et donc, quand ils voient ça, ils voient que mais il y a une personne qui est venue ici. Cette personne-là a intervenu sur cet arbre-là. Donc, il ne faut pas toucher.
Je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de comprendre au niveau de l'herbe là. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que ça n'a pas poussé. Nous, on ne le voit pas, mais les graines sont toujours là.
Mais les graines sont toujours là. Parce que l'herbe pousse, l'herbe se développe, il y a une germe.
Dès que les conditions naturelles sont normales.
Dès que les conditions naturelles se réunissent, l'herbe, il y a une régénération.
Mais en faisant ça, en fait, vous encouragez ce qu'il y avait ici naturellement. C'est-à-dire que c'est l'écosystème que vous sauvegardez.
Oui, c'est l'écosystème que nous sauvegardons. Et on voit d'abord la régénération naturelle. Il y a l'apparition d'autres espèces, des espèces qu'on n'avait pas vues quand on s'installait ici.
En fait, ce qu'on avait oublié.
Et même quand on faisait le reboisement, la parcelle-là était nue, il n'y avait rien.
Vous voulez dire que c'est comme l'autre côté?
C'est comme ça, c'était nu, il n'y avait rien. C'est quand on a reboisé, on a commencé maintenant à voir l'apparition de certaines espèces. Et même des animaux, des fois même en suivi, on vient, on voit la présence des lièvres, des écureuils.
Ah, qui sont revenus?
Qui sont revenus. Des fois en suivi, on voit des nids, des œufs. Oui, on voit maintenant que vraiment il y a l'écosystème qui commence à se...
Ben, c'est normal si ça s'est dégradé. Et ce que ces herbivores là mangeaient naturellement, c'est ça disparu, ils vont pas rester là. Mais maintenant que c'est revenu, ils vont revenir.
Ils vont revenir, oui, parce que les conditions maintenant sont réunies, ils reviennent.
La zone menacée par ces avancées du dune, c'est ce que les spécialistes en agriculture appellent la zone des Niaï, une bande étroite d'une longueur de 100 à 180 km de Dakar à Saint-Louis et d'une largeur variant entre 25 et 30 km entre la côte atlantique et l'autoroute nationale numéro 1. Cette entreprise de fixation des dunes est donc une vaste opération qui a mobilisé les services des eaux et forêts, le PADL-PNDL, c'est-à-dire le projet d'appui au développement économique local en ancrage au programme national de développement local, l'organisme de microfinance UM-PAMECAS, c'est-à-dire Union des mutuelles de partenariat pour la mobilisation de l'épargne et le crédit au Sénégal, l'ONG internationale SOS Sahel, la municipalité du Tiep et les communautés villageoises. Aujourd'hui encore, cela semble une affaire sans fin.
Oui, ça dépend de la disponibilité des agences parce que nous, chaque année, on fait une expression de besoin. On demande à la mairie de faire une expression de besoin. On organise des forats, on convoque tous les chefs de village et on demande à chaque chef de village d'aller au niveau de son village, de sensibiliser sa population et de faire une expression de besoin. Et maintenant, il reste une liste des gens qui veulent qu'on les appuie à stabiliser les dunes qui menacent les maisons et les cuvettes. Et à partir de là, ils amènent les listes au niveau de la commune. Et maintenant, la commune dresse une liste et aussi fait une sélection pour voir exactement les gens qui demandent sont à la mesure de faire. Donc, mais c'est à la commune de faire ça. Et après, maintenant, la commune nous donne la liste. Et nous, à partir de ce moment-là, on fait une expression de besoin en gaines, en semences.
C'est-à-dire que vous adressez à Dakar?
Oui, on adresse maintenant. Quand je fais ce travail-là, je réunis l'expression des besoins en superficie, à sauvegarder, en nombre de plants, en espèces. Maintenant, je m'adresse à Dakar.
D'accord. Mais là, il y a un avantage. Je sais que ce problème-là est tellement urgent et tellement crucial que ça a obligé tout le monde à travailler ensemble. Vous, les paysans, municipalités, chefs de village, en fait, tout le monde.
Oui, oui, tout le monde travaille ensemble. Tout le monde.
Là, vous n'avez pas le choix.
Tout le monde, on n'a pas le choix. Et on nous interpelle. Même la personne-là qu'on vient d'apercevoir là, c'est ce qu'elle me disait. Moi, je veux une parcelle, quoi. Comment je dois faire pour planter.
Ah oui, d'accord, c'est ce qu'il disait là.
C'est ce qu'il disait, oui.
D'accord, je vous remercie.
Merci, je vous en prie.
Nous étions dans les villages de Cœur Sambalaoubé, Teben 1 et Kaldamel Amat, trois villages de la commune rurale du Tchèp au Sénégal, avec les techniciens et les villageois qui travaillent à la fixation des dunes de sable qui menacent de recouvrir les cuvettes maraîchères de cette zone. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Avant de se quitter, ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
Top na la lol, I'm Balulai.